Décrocher. Pas décrocher le wagon. Si on décroche le wagon, après. Marqué, bon, c'est pas une affaire. Parce qu'on revient tout le temps, toujours sur les mêmes choses. Mais si vous avez une difficulté, puis vous dites, ah, j'aimerais piger ça, et puis que vous ne me le dites pas, la fois suivante où on y revient, à nouveau, vous butez, vous ne pigez pas, et du coup, comme vous avez la première fois, vous n'avez pas réagi en disant, mais j'aimerais piger ça, vous, la deuxième fois, vous ne demandez pas non plus, vous disant, mais c'est quoi cette histoire? Et du coup, vous vous habituez à ne pas poser la question. Et du coup, c'est dommage parce que vous vous bloquez quelque part. Il y a un grain, vous ne comprenez pas très bien. Stade 0. Le stade 0, vous vous en rappelez, je ne reviens pas dessus. C'est dit, moi, je ne ressens pas tous ces trucs que vous ressentez. Vous êtes complètement marteau. Vous êtes psy, quoi. Vous êtes des psys mystico-dingos. Moi, je ne connais pas. Angoisse, je ne connais pas. Tristesse, je connais pas. Mais pourquoi vous avez un torticolis? Vous pouvez répondre, tiens, vous avez un torticolis. Par contre, j'ai mal. Oh là là, j'ai un cancer ici, j'ai un œdème là, c'est pas né, j'arrive pas à dormir, enfin. Et j'ai la courante. Voilà. Alors ça, c'est typique, vous voyez. Alors ça, c'est le stade qu'on considère comme étant un stade pathologique. Bon. C'est pas normal du tout. Pas normal. Le stade 1, qu'on avait donc terminé de regarder, est un stade minimum vital. C'est-à-dire, on est enfermé, si vous voulez, on étouffe, si tu veux, dans une espèce de blocos. Il y a beaucoup de gaz, ça pue, etc., tout ce que tu veux, mais quand même, il y a un petit courant d'air, et notre âme n'est pas totalement asphyxiée. Il y a une possibilité de survivre. Les émotions sont là. On ressent quelquefois ces angoisses qui te montent. Pulsion de trucs qui montent de toi. Elle, cette pulsion d'amertume, cette pulsion de tristesse, cette tristesse terrible. Et puis, ou alors, cette espèce de... Ce truc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'arrives pas à formuler. Comprenez? T'arrives pas à mettre un mot là-dessus. T'arrives pas à voir. Du moins, tu ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Ça va? Donc, il y a une espèce de... Le refoulement ne va pas jusqu'à la destruction, n'est-ce pas, de l'émotion. L'émotion, elle est là, mais ce qui n'y est pas, c'est de l'accepter. J'accepte pas. Non, je n'ai pas un truc de jalousie. Moi, je sais pas. Je veux pas être jaloux de cette espèce de corneau. Ouais. C'est ça. Comment? C'est pas de la jalousie, ça. Alors. Vous voyez, laissez monter tout ça. Alors, donc le stade 1, il faut arriver. Maintenant, stade 2. Alors maintenant, on va regarder le stade 2, voilà, qui est, disons, le stade normal. Il est tout à fait normal que nous ayons... Calme. Il est tout à fait normal, on est climatisé ici. Cool. Alors, il est tout à fait normal que nous ayons des émotions. Mais il est normal aussi que nous puissions commencer éventuellement à les gérer, plutôt que de piétiner au milieu et de faire que cette tension ne cesse de s'accumuler. Il faut qu'on puisse prendre ces émotions et qu'on puisse, grâce à ces émotions, se saisir nous-mêmes. Ça va? Le stade 3 qu'on va regarder à la fin, alors que, dont ne parlent pas les psychologues, mais nous en parlons parce que nous sommes des gens qui vont aller jusqu'au bout du problème. Voilà. Le stade 3, c'est donc l'intervention de la guérison. Mais le stade 2, c'est une émotion qui n'est ni refoulée dans son vécu, ni refoulée dans sa nomination et dans sa recherche d'origine. Est-ce que ça va? Voilà. Bon, donc on va regarder le stade 2 maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Parce que ça, bon... Stade 2. Donc le stade 2, il y a trois choses. Il faut la ressentir, l'émotion. Par exemple, je ne sais pas, bon, hier, je disais la messe, c'était du Sacré-Cœur, ça devait être vers 15h. Bon, et puis bon, c'est un secret pour personne, donc vous inquiétez pas, vous le garderez pour vous. Que ça choque personne, n'est-ce pas? J'habite avec un petit frère, le frère ermite, qui n'aime pas avoir des visites. Il n'aime pas ça. Bon, moi j'aime pas non plus, mais lui, il n'aime pas. Bon. Et donc, je commence à dire, non, je ne dis pas à la messe à 7 h le matin, je la dirai à 15 h, parce que c'est le Sacré-Cœur, donc c'est la crucifixion de Jésus, le coup de lance, je la dirai à 15 h. Et puis, je mets dans la patène, le matin, je mets 5 hosties. 5 hosties, parce que je voulais prendre une hostie, il y en a 4 qui s'encrochent à mes doigts. Alors, je me dis, bon, j'ai mis les 5 hosties dans la patène. Il a quand même attendu. Nous sommes arrivés à 15 h, à 3 h moins 5. Et à 3 h moins 5, j'ai dit, mais alors, complètement par hasard. Bon, bien sûr, complètement par hasard. Une personne qui venait des montagnes du Verdon, là, de Vaudouin, une espèce de dame très gentille, d'ailleurs, très très gentille, qui avait fait du tantrisme, du machin. Alors donc, elle est entièrement bouleversée dans son psychisme, métapsychiquement, et tout ça. Bon, enfin, comme je suis un spécialiste de ces questions, je n'ai pas de problème. Et là, je suis pas un spécialiste de ces questions, croyez bien, je n'ai jamais pratiqué, je vous avoue, il faut beaucoup de temps pour s'en remettre. Mais, elle arrive. Et ça y est, voilà les 5 qui vont débarquer. Alors, voilà la première. Alors elle me dit, bon, faut pas m'attendre pour le début de la bête. Et il est parti dans la montagne. Voilà. Alors bon, je me suis dit, c'est complètement idiot, le pauvre garçon. J'ai commencé la messe, quand même. J'ai commencé la messe. Et puis, bon, il y avait juste que c'était cette brave dame qui était là. Et puis. J'ai senti à l'intérieur de moi que quelque chose montait. Mais du fond, tu vois, tu sens ça. Mais je m'excuse de vous dire ça, les choses-là, parce que vous l'expérimentez tout le temps. Mais d'habitude, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à autre chose. Vous comprenez? Tandis que là, je me suis dit, ça va. Je laisse monter ce truc-là. J'ai laissé monter. Mais vraiment, un truc de souffrance, quoi. Voilà, une onde, on peut dire, une bouffée de souffrance. Et je me suis dit, mais tiens, je l'ai laissé monter. Je me suis dit, je voudrais quand même savoir, quoi, qu'est-ce que c'est cette histoire. Il n'y a aucune raison, pour moi, il n'y a aucune raison. Moi, j'ai aucune raison de souffrir de ça. C'était l'occasion qui faisait la souffrance. Je sais bien que ce n'était pas une souffrance qui était à cause du fait que c'était barré à la montagne, vous comprenez? Pas à cause de ça. Mais c'est l'événement qui avait donc provoqué ça, déclenché un truc. Hein. Un truc antérieur. Un truc habituel peut-être. Mais c'est d'habitude, je refoule. Vous comprenez? Alors là, j'ai laissé monter. J'ai laissé monter. Je me suis dit, mais putain, ça fait marrant. C'est une émotion de souffrance. Souffrance, c'est pas drôle. Souffrance. Mais enfin, en même temps, c'est amusant, regardez. Et vous comprenez? On fait comme ça. On se lève, on prie. Et on regarde en disant, marrant, enfin marrant, et pas marrant, c'est pas ça la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est quoi cette souffrance-là? C'est quoi comme sentiment? C'est quoi comme émotion? C'est quoi? Est-ce que c'est de la tristesse profonde? Est-ce que c'est de l'anxiété profonde? Est-ce que c'est de la jalousie profonde? Est-ce que c'est... Vous comprenez, on a du mal à reconnaître parce que on a une attitude perfectionniste. Et l'attitude perfectionniste fait que on ne veut pas, quelque part, au bout d'un certain temps, reconnaître qu'on a des émotions pécamineuses. Alors du coup, on ne les nomme plus, on les laisse, on passe à autre chose. Ça va? Donc il laissait monter ces émotions, les repérer, les nommer. C'est tout ça, c'est le stade 2. C'est ressentir, elles sont là. Deuxièmement, les reconnaître. Troisièmement, exprimer ce que je vis de manière juste. Si je ne l'exprime pas de manière juste, je vais éructer à un moment quelque chose qui ne correspond pas du point de vue des mots. Parce que moi-même, je ne repère pas ce que je sens, ce que j'éprouve comme émotion. Donc je vais exprimer par exemple sous un mode de tristesse, ce qui en réalité est une émotion de souffrance animée par une colère profonde. Et donc je vais mal exprimer. Et donc je vais agir doublement mal. Un, parce que ce ne sera pas juste hein, par rapport à mon émotion. Deux, parce que ça va aggraver la situation. Donc c'est tout le problème du stade 2. Il s'agit de savoir être transparent par rapport à sa vie affective. Il faut savoir où est son cœur. C'est terrible. Oui. Non, c'est une émotion.
Justement, en prenant un masque, on voit quand même une sensation physique, l'émotion.
Oui, sensible. Pas physique, mais sensible.
Une émotion sensible.
Oui.
En le prenant, sans analyser.
Non, tu n'analyses pas, tu le nommes.
On ne risque pas de se leurrer, on peut le nommer, justement.
Tu ne peux quoi, comment le ?
On ne risque pas de se tromper, de garder la dessus.
Oui, tu le laisses. Tu le laisses se développer et s'exprimer. Sans toi obéir, parce que si tu agis, tu es là, mais j'ai la haine, et j'ai envie de la tuer, mon épouse, j'ai envie vraiment de la tuer, j'ai vraiment envie de l'étrangler, quoi. Mais laisse monter ça. Non, mais dès que tu dis ça c'est vrai, tu commences à obéir. Parce que parce qu'à ce moment-là, tu la prolonges par un acte libre qui consiste à dire, finalement, c'est... C'est pas mal comme idée. Mais non, justement, c'est pas très... Comme idée, c'est pas mal, c'est mal, justement. Comme idée, c'est pas une idée, c'est une émotion. Donc tu vois qu'il faut pas le traiter comme si c'était une idée. En disant, mais cette idée, bah oui, finalement, c'est pas idiot, il faut que je l'étrangle. Alors si tu la traites comme une idée, c'est précisément ce que je vous ai dit. Il faut pas comprendre le combat spirituel sur le plan des émotions comme si c'était sur le plan des idées. C'est ça, la première grande erreur. Et c'est l'erreur... Justement, dans laquelle il ne faut pas tomber si on veut bien voir le stade 2. Hein? Non. Donc, il faut laisser aller cette émotion en moi. Moi seul. Seul devant Dieu, si tu veux. Et de manière à ce qu'elle s'exprime, qu'elle aille jusqu'au bout, jusqu'à ce que peut-être elle se dilue. Mais enfin, au moins, tu l'auras laissé s'exprimer quelque part. Et donc, ce sera peut-être plus facile pour toi de voir ce que c'est. D'éprouver ce que c'est. Tu auras fait l'expérience d'un type d'émotion particulier qui ne ressemble pas à un autre type d'émotion, puisque je vous ai donné les 5 grands types d'émotions. Ça va ?
Oui.
Voilà. Et c'est ça qui l'implique de reconnaître. Donc, premièrement, donc, il faut reconnaître. Deuxièmement, il faut pouvoir les mettre un mot dessus, verbaliser et l'exprimer. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire exprimer l'émotion ? Ça veut dire ne pas obéir à l'émotion. En disant, ben ouais, effectivement, ouais, c'est... Faut pas obéir, on n'obéit pas, parce qu'à ce moment-là, pour le coup, je passe à l'acte. Alors là, je suis responsable. Mais si j'ai une émotion, je ne suis pas responsable. Oui.
Pour la question, est-ce que ça passe au stade d'être une souffrance ?
Non, il n'y a pas de stade. Il y a quelque chose qui monte en toi. C'est une souffrance qui est sous-jacente, mais... Elle monte en toi à l'occasion d'un nouvel événement, un nouveau visage ou une nouvelle manière dont ta femme t'a parlé avec un ton que tu reconnais, qu'elle t'avait parlé il y a tout juste, par exemple, 6 ans après le mariage, par exemple. J'en sais rien, je ne dis pas.
C'est une seule question.
Oui.
C'est ce processus. Si c'est l'enclenchement au superlatif, par exemple, de ce que le Christ a souffert à son agonie. Il n'a pas été écrasé par le péché. Peut-être que c'est la version.
Alors, l'agonie du Christ, il a connu une montée en lui, dans le lien qu'il y a entre son âme et son corps spirituel, qui se fait d'ailleurs dans le Verbe de Dieu. Dans le Verbe de Dieu, il y a cette unité entre son corps et son âme spirituelle. Mais en s'unissant en son corps et son âme spirituelle au Verbe de Dieu, il y a aussi une unité de mémoire corporelle, c'est-à-dire il reçoit son corps de l'humanité. Et recevant son corps de l'humanité, il a une limpidité de mémoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est en relation avec tous les corps. Parce que ce n'est pas la même ontologie qu'on est en relation avec les autres corps, notamment le cosmos, mais aussi le corps de l'humanité. De sorte qu'il reçoit en lui les souffrances, dans sa mémoire ontologique qui est si pure,
de tous les corps vivants. Et ces souffrances montent en lui sans qu'il y ait de péché. Mais elles montent bien en lui, c'est ça l'agonie. C'est ça l'agonie. Bon, mais ça c'est le mystère du Christ. Là, pour l'instant, si vous voulez, on regarde nous, hein, ben, évidemment. C'est ça, il faut mieux essayer de regarder en nous. Parce que déjà, après, pour regarder en Christ. Bon. Alors, il faut, comment dire, arriver à oser déjà me dire à moi, vous comprenez, je suis en colère. Je suis orgueilleux. Je suis. C'est mon orgueil qui est froissé, qui est blessé. Oui, ou alors, je suis jaloux. Ou, tiens, je suis fragile. Je suis vulnérable. Je ne suis pas si fort que je pensais. Je souffre. Ou, comment on est ? C'est je. Vous allez pouvoir vous le dire à vous-même. Je suis triste. J'ai mal. Comment on est ? C'est. Tu me rends triste à force. Tu m'énerves. C'est pas ça. Voilà. Vous passez donc de ça à la vérité. C'est je suis en colère. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas on. Le gouvernement. C'est vachement important. Mon père, ma mère, tu peux pas savoir l'éducation que j'ai reçue, atroce, oh là là, c'est épouvantable. Non, alors vous voyez, il faut à ce moment-là que je vais reconnaître que c'est moi qui suis la source. Vous comprenez, je vais dire la vérité déjà pourquoi. C'est de ma source, c'est une tension intérieure. Donc ça vient de la source d'amour qui est en moi. Vous comprenez ça? Et donc je commence à reconnaître, être, à ne pas faire illusion sur moi-même si vous voulez, d'accord? Une pensée, c'est pas pareil. Hein. Une émotion, j'espère que vous voyez la différence entre l'émotion et la pensée. Hein. J'espère. Ça, c'est très très important. À force de penser, hein, vous en avez une tête grosse comme ça. Tout dans la tête, hein. Je réfléchis, je viens là, je deviens psychotique à force de faire, mais. Tandis que, regardez, la tête, à un moment, il faut qu'elle descende dans le cœur. C'est ça les émotions. C'est ça la grâce, d'avoir des émotions difficiles à porter. C'est une très grande grâce, parce qu'à ce moment-là, la tête, l'intelligence peut commencer à descendre au fond du cœur. Et je commence à être un homme, je commence à être une femme. Quand l'intelligence descend au fond du cœur, et je vois les choses telles qu'elles sont, en vérité, oui, non, la pensée, si la pensée fait naître des émotions, elle les fait naître parce qu'elle fait naître un péché. La pensée devient une tentation qui s'imprime dans notre psychisme par l'imaginaire. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On avait vu qu'au niveau de la lutte spirituelle du côté des pensées, il y avait trois possibilités. Donc les pensées spirituelles, les pensées psychiques, les pensées charnelles. Donc il est très possible, en effet, qu'une pensée venant à moi, je l'accueille. Et accueillant cette pensée, je rentre dans un certain péché qui, du coup, engendre une nouvelle émotion. Mais c'est second. Là, ici, je regarde ce qui naît spontanément, ça, en moi. Ça va? Sans que ce soit moi qui l'ai engendré par un consentement à une pensée nouvelle. Ça va? À une tentation. C'est facile à repérer une pensée et une émotion. C'est facile.
On lit l'adrénaline avec ça, non ?
Pardon ?
On lit l'adrénaline avec ça.
Je ne sais pas ce que ça veut dire, on lit l'adrénaline.
C'est-à-dire,
tu as des. L'activité
que tu as dans le cœur.
Oui, non, non, mais je ne parle pas de ça.
Non, mais non, c'est parce que.
Je ne parle pas de ça. Quand tu as une décharge d'adrénaline, c'est forcément et nécessairement parce qu'il y a un événement extérieur qui te frappe. Donc j'ai bien dit qu'à ce moment-là, il ne s'agissait pas des émotions. S'il s'agit de quelque chose d'extérieur, ça fait naître en vous une peur bien logique, puisque vous avez un danger réel, et donc c'est là, premièrement, votre intelligence qui est mise. Et vous avez donc une décharge d'adrénaline, ça si tu veux, oui, d'accord. Oui. Bon, donc, vous comprenez qu'il faut arriver à dire « je » au lieu que finalement on dise « tu » ou « on ». ou le gouvernement, ou la communauté. Ah, cette communauté, cette fraternité, personne. On ne me comprend pas. On me juge. Elle me rejette. Il ne me reçoit pas. Mais
dire je suis à côté de mes pompes, etc., il faudrait peut-être que je guérisse, ça non, ça.
C'est pas du tout ton problème, hein, comprenez? Alors, que personne ne semble viser, on est tous pareils. Alors,
tu connaissais un saint qui s'appelle du désert, un ermite qui s'appelle Dorothée de Gaza, qui dit ceci. La vie spirituelle repose sur le fait de tout dire et en tout de trouver le conseil qui correspond. De demander conseil, quoi. La prudence, vous voyez, la première prudence. Souvent, Léon me demande de parler de la vertu de prudence. Et bien, la première prudence, c'est d'apprendre à gérer au moins au minimum ses émotions. La première prudence, c'est d'apprendre donc à dire la chose et à demander conseil. Donc celui qui est proche de nous va nous aider à dire, à exprimer et à mettre un nom, un mot juste sur cette émotion. Et vous comprenez bien, il ne faut pas que ça m'énerve encore plus en disant « Oh, t'es jaloux, ah, c'est bien, oh, t'es en colère, ah, oh, mais qu'est-ce qui m'énerve quand ça, je mets encore plus en colère. » Non, je vais accepter, dire oui, j'ai une émotion en moi, c'est vrai que c'est peut-être de l'agressivité, c'est peut-être de la colère, etc. Vous voyez, le proche, il va m'aider. Il va me dire, mais tiens, mais là, tu as l'air bien troublé en ce moment. T'es pas bien dans ton assiette. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui t'a fait de la peine. Alors vous dites, bah non, pas spécialement. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, ça monte comme ça, je sais pas, ouais, je sais pas. Enfin, ouais, il discute avec vous, n'est-ce pas? Il va vous apprendre, mais et puis il va vous dire, mais si, tu es dans un état de tension incroyable, ça se voit, ton visage, ça va pas, t'es pas bien comme d'habitude. Et puis, il va vous aider, il va dire, mais qu'est-ce que tu ressens exactement? Allez, dis ce que tu ressens, quoi. Vous voyez? Ah, mais je sais pas, je sens que j'y arriverai pas, je sens que j'ai un coup de découragement. Vous voyez? On va essayer de trouver un ami pour ça, éventuellement un confesseur, vous pouvez un confesseur. Un confesseur, vous n'allez pas essayer de demander au confesseur de vous aider à donner un mot. Vous allez voir le confesseur, une fois que ça y est, c'est verbalisé, ça y est, c'est un découragement, faute de contre-espérance, c'est tout. Voyez. Et donc, vous allez amener, si vous aidez quelqu'un comme ça qui est proche de vous, à dire, je suis découragé. Je sens un espèce de découragement. Je suis découragé. Ah, mais pourquoi? Ah, je sais pas. Ah, bon, ça, c'est autre chose. Enfin, déjà, ce sera une première chose importante, la verbalisation. Vous savez, les pères du désert, des tout premiers siècles des moines, vous voyez, 4e, 5e siècle, attacher une importance capitale à la transparence. Capitale. La transparence, c'était quelque chose de très très important pour eux. Tu ne faisais pas un pas dans la vie spirituelle si tu n'avais pas commencé par la transparence. Et vous voyez, par exemple, quand on fait des exercices de Saint Ignace, regardez comment, pendant 7 ans, on peut, pendant 7 ans de suite, on peut bloquer, parce qu'on est dans la grisaille, non? Et puis, on fait les exercices de Saint Ignace et hop, on est libre. Pourquoi? Parce que pendant les exercices de Saint-Ignace, pendant 33 jours, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ça. On fait des exercices spirituels, et à chaque fois, prêtre des exercices vous fait faire un exercice spirituel, 5 par jour, chacun une heure. Vous devez faire exactement ce qu'il vous a dit. Ça doit être une méditation, de tel passage de la Bible, une oraison, une contemplation d'une fleur, que sais-je, j'en sais rien, l'adoration du Saint-Sacrement. J'en sais rien, vous regardez le nombril, faire monter le kundalini, j'en sais rien, non, surtout pas ça. Mais, mais
En tout cas, vous faites les 5 exercices d'une heure dans la journée, et le soir, vous retrouvez le directeur des exercices spirituels, et vous lui dites, j'ai pas pu faire ça, je sais pas, j'étais bloqué, j'y arrivais pas. Ou alors, ouais, ça a été bien. Et voilà ce que j'ai éprouvé comme fruit. Tous les exercices d'intimidation, c'est basé là-dessus. Et en fonction de ce que vous avez éprouvé le premier jour, il vous donne les exercices du second. Et ceci pendant 33 jours. De manière que, au bout de 33 jours, toute la grisaille a disparu. Tout ce qui vient du moi, tout ce qui vient du mental, tout ce qui vient de l'influence extérieure, tout ce qui vient des tentations, tout ce qui vient des pensées, tout ce qui vient des bons conseils que vous a donné à grand-mère. Oui, il faut que tu sois une carmélite. Toutes ces espèces de mamies, d'éducation, tout ça, toutes ces influences extérieures, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises, sortent. Il n'y a plus que vous et l'Esprit Saint. Et au bout d'un 33 jours, vous arrivez et vous faites un choix, mais c'est l'Esprit Saint qui fait ce choix avec vous, et c'est vous qui faites ce choix, et du coup l'Esprit Saint le fait avec vous. Et vous savez que ce choix est vrai, et que ce choix correspond exactement à votre source d'amour, et à votre note d'amour, et à votre désir d'amour, et à votre choix personnel, et en même temps au choix personnel de Dieu. C'est extraordinaire, n'empêche ça, les exercices de Saint-Ignace pour ça. Mais c'est basé là-dessus, c'est basé. Parce qu'au bout de tous ces jours d'exercice, à force de faire transparence, de dire... En fait, on ne fait pas transparence en disant tout ce qu'on pense. Hein. La transparence, ce n'est pas de dire ce qu'on pense. La transparence, c'est de dire ce qui m'habite, c'est tout. Ces émotions-là, ce n'est pas pareil du tout. Parce que vous avez des gens qui viennent vous voir en disant « Fais transparence et tu vas dire toutes tes pensées. » Ça, c'est une erreur. C'est la grosse erreur. Faut pas dire tes pensées. C'est la psychanalyse à ce moment-là. Alors tu tombes dans Jung, Freud et compagnie. Enfin, tu deviens un tortionnaire de la vie spirituelle. Non, tu exprimes simplement ce que tu as éprouvé. Librement, en disant que c'est toi, c'est ta source en toi qui a éprouvé, a réagi de cette manière-là. Et c'est cette transparence qui va faire que petit à petit, la part imaginative va se dégonfler en nous. Tout le petit vélo qui est en nous. La folle du logis, tu sais. La petite sorcière avec son balai, là, qui... La mouche. C'est dans Sartre, tu sais. Sartre, c'est un théâtre qui s'appelle La Mouche. Très, très bon. Très bon, ça. Alors tout ça, le petit vélo s'arrête. Et puis, la part d'illusion et d'ignorance, tout l'espace d'action du démon aussi en nous. Voilà. Et du coup, on commence à rentrer dans le réel où Dieu peut nous éclairer. Où Dieu est là. Il peut nous montrer. Donc ce stade est très important dans le combat spirituel, vous comprenez bien. C'est évident. Voilà. Moi, je peux vous dire, à titre personnel, que pendant des années, moi je disais toujours, je suis prêt à rentrer dans le combat. Et à l'âge de 16 ans, j'étais prêt à rentrer au séminaire, soi-disant, dans ma tête. Hein. Rentrer au séminaire, rentrer en consécration à Dieu, vous voyez bien que j'ai été ordonné à 36 ans, 20 ans après. 20 ans après. Bon, alors j'ai ramé, j'allais à droite, à gauche, je voyais des mecs. Je proclamais la Bible dans le quartier latin, je montais sur les murs, je montais dans la gare Montparnasse, je hurlais devant des milliers de personnes. Et ça marchait en plus, c'est ça qui était bien. Et puis bon, c'était magnifique, c'était génial. Mais n'empêche que ça n'aboutissait pas. Hein. Tu patauges dans la choucroute, tu me dis, on veut pas de moi, on me vide de la communauté, on m'emmerde, on ne me reconnaît pas, etc. Jusqu'à ce que je fasse les exercices. De Saint-Ignace. Il a fallu qu'un jour j'accepte de faire transparence devant Dieu et devant moi-même. Vous comprenez? Pour voir en face ce que je voulais profondément en raison de la marque et du oui initial que Dieu avait mis dans mon cœur depuis ma conception, quelque part. Et chaque fois que je disais oui, par exemple, quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, je crois, chaque fois qu'il y avait un oui total avec Dieu, retrouver ce oui correspondait à quelque chose qu'en réalité je ne voulais pas de 16 à 20 à 30 ans, c'est tout. Je ne voulais pas être moine. partie d'un corps consacré à Dieu, être prêtre, ce que vous voulez, ou je sais pas quoi, mais être moine, non. Rangard. Comment ça s'appelle ça? Rangard. Quel mot? Rangard, non? Ringard. Oh, j'ai rencontré le père Emmanuel. Quand j'ai vu le père Emmanuel, rasé. Moi, j'avais les cheveux. Ouais. Quête et tout. Ah non, c'était beau gosse à cette époque, je peux te dire. Hein. Je vois le père Emmanuel rasé. Je comprenais rien ce qu'il disait, ça c'est des aboiements. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis t'assistes à la messe, tout en latin, toujours. Oh là non, je vais rentrer là-dedans. Non, c'est pas possible. Puis il avait un habit, une espèce d'habit gris, etc. Il y avait un type, le père Jean, qui était à côté. Calmer les épaules. À côté, il y avait un espèce de frère Roland qui était là, qui était déjà chauve à 25 ans. Et à 25 ans, il était déjà chauve. Il avait une gueule de travers, les yeux hurlés. Je ne veux pas ressembler à ce mec-là. J'en ai pleuré, je te jure. J'en ai pleuré, je dis, c'est pas possible, je vais pas ressembler à ça. Voilà ce que je vais devenir. Moi, j'en ai pleuré, je te jure, c'est vrai. Hein. Et puis Emmanuel dit, mais pourquoi je pleure? J'ai pas envie de devenir comme j'ai pas dit comme vous. Mais non, bon, je ne sais pas pourquoi je fais des petites gardades, mais pas bon. Donc vous comprenez que ce qu'il faut faire attention, c'est à quoi il faut faire attention, ce qu'il faut accepter, c'est tout de même un jour de commencer à se lever pour aimer vraiment, et que c'est nous qui librement aimons. On ne se laisse pas guider par des affectivités accidentelles, mais par un amour substantiel, c'est vraiment nous qui nous levons pour aimer. Et pour ça, il faut accepter donc de gérer ses émotions. Alors, attention à l'attitude perfectionniste, parce que au début, on se dit, il y a quelque chose qui monte, c'est la première fois que ça vous arrive. Alors, vous comprenez? Vous dites, mais tiens, c'est une jalousie, ça. Bon, il faut que je l'offre. Et puis, ça vous reprend, une semaine après, une fois, deux fois, trois fois. J'ai pas tort. Alors, vous acceptez, quand même. Mais enfin, et à l'avenant, 15 jours après, ça recommence. Une nouvelle truc comme ça. Et au bout d'un certain temps, étant donné que vous pensez avoir eu la victoire, n'est-ce pas, ça vous embête. Et donc, au bout d'un certain temps, du stade 1, et même peut-être 2, il y a un danger, c'est que vous pouvez rentrer dans une attitude perfectionniste, et ça, c'est habituellement, nous, on est tous un petit peu comme ça. Parisienne, si vous voulez. En disant, bon, ben voilà, l'affaire est réglée. À force d'avoir ces phénomènes en moi de haine, de jugement, tout ce que vous voulez, je dis plus, oh, Seigneur, sauve-moi, je t'offre ça, de manière que ce soit toi qui puisse remplacer, etc. Vous allez plutôt avoir tendance à dire, bon, ben, ça va mieux, je suis au-dessus de tout ça, et je commence à refouler. Et à rentrer dans une attitude où je vais me dire qu'il n'est plus nécessaire de voir ce qui m'habite. Plus nécessaire maintenant. Il faut donc avoir à vaincre cette attitude qui consiste justement à dire non. La transparence et que l'amour soit libre, il faut que ça tout le temps. Vous comprenez? On ne doit jamais s'arrêter là. Et il y a dans la finesse du combat spirituel une attitude donc qui est mauvaise du côté de la gestion des émotions, c'est de refuser de reconnaître mes émotions en glissant vers cette manière de gérer les émotions et en considérant que ces émotions, comme vous disiez tout à l'heure, eh ben finalement ce sont des pensées, quoi. Et donc je vais les gérer comme si c'était des pensées. Et c'est ça le glissement dont je vous avais parlé tout à l'heure, et qu'on trouve ici une manière plus subtile. Ouais. Il ne faut pas combattre, jamais combattre les émotions, même au bout d'un certain temps de lutte spirituelle, comme on combat les pensées. Vous voyez par exemple une image tentation. Dans votre fantasme, vous avez une image vous frappe, un film, une affiche, Dieu sait que, hein, on en a et tout, une parole, un ton au téléphone de quelqu'un qui vous rappelle un ton que vous avez peut-être oublié, mais que vous avez entendu il y a 11 ans, hein, que vous avez oublié, mais qui a engendré, lui, au bout de plusieurs jours, un certain nombre de choses qui sont pécamineuses. Enfin, tout ça, vous ne savez pas très bien les interconnexions. Enfin, tout ça, ça vous frappe, hein, n'est-ce pas? Et ça rentre en vous. Eh bien, s'il y a une tentation ou un fantasme particulier, que ce soit un fantasme de haine ou un fantasme de pornographie ou je sais pas quoi, ou truc comme ça, bon, c'est évident que ces pensées-là, il faut les chasser. On est d'accord. Il faut chasser les mauvaises pensées. On est tout à fait d'accord. Il faut chasser les occasions. On est tout à fait d'accord. Il faut chasser les mauvaises occasions. Évidemment. Mais les émotions, il ne faut pas les chasser. Ça va, ça, je vous l'ai déjà dit, on ne saura jamais trop le répéter. Et comment est-ce qu'on fait pour chasser les tentations? Eh bien, vite, on se réfugie, au lieu d'être dans la pensée, on se réfugie, pas dans son cœur, mais on se réfugie au fond de son âme. Et là, on trouve le sacré cœur de Jésus, on trouve la grâce, on trouve cette unité si profonde, notre identité d'être, j'existe, je suis suspendu à la Créateur de Dieu. Mon âme est toute immergée dans l'océan immaculé des processions de la très sainte Trinité. Je peux prononcer le nom de Jésus. Voilà comment je lutte contre les tentations qui me viennent de l'extérieur. Oui, je fais comme ça. Mais si dès que j'ai une jalousie qui monte, une haine qui monte, je fais de la même manière, c'est dramatique. J'ai une haine qui monte. Ah, Jésus, guéris-moi. Voilà. Oh, Jésus. Au nom de Jésus, voyez, vous faites, vous refoulez tout de suite, n'est-ce pas? Vous refoulez tout de suite et puis vous chassez ça. Eh bien, ça ne va pas. Parce que ce n'est pas une pensée. C'est l'expression d'une soif d'amour déviée. Et c'est ce que je vous explique. Et ça, l'attitude perfectionniste qui est en nous, qui n'admet pas qu'il y a encore des odeurs pécamineuses qui montent de notre amour pur, de notre soif pure d'amour, a tendance petit à petit à nous faire réagir un petit peu d'une manière charismatico-mystico-dingo. En disant, c'est le Seigneur qui va s'occuper de ça, etc. Ah, c'est Marie, oui, une apparition de Saint-Joseph, une apparition de Saint-Michel-Archange, c'est réglé. Bon, non, pas du tout, je refoule pas comme ça. Oui.
Un exemple de ça, on est dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, une mauvaise atmosphère, et qu'on sent quelque chose, une sorte d'agressivité qui monte en nous. À partir du moment où on l'accepte et on l'assume, est-ce que c'est bon ou non?
Alors, écoute, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a le fait que tu sois dans un certain environnement. Par exemple, tu te mets dans une boîte de nuit, où il y a plein de striptease, où il y a plein de PD, où il y a de la drogue, il y a de machin. Tu te mets là-dedans. Ben, à ce moment-là, je suis désolé, mais je m'excuse, mais... Tu te mets dans un certain conditionnement, tu me dis. Extérieur.
Par exemple, dans une communauté qui ne conviendrait pas...
Non, ça, alors tu comprends que là, ça, là je ne parle pas de ça, moi. Je parle, tu es chez toi, tu es dans ton lit, tu es tranquille, tu pries. Et il y a quelque chose qui monte en toi. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Tout à l'heure, je commençais la messe tranquillement et il y a un truc qui monte en moi. Qui était sans commune mesure avec la bêtise ou la broutille qui avait eu lieu 5 minutes avant. Mais non, c'est toi tout seul, c'est je. C'est pas les autres, hein. C'est pas les circonstances, d'accord? Alors bien sûr, il y a des trucs quand tu te mets dans certaines circonstances, et bien évident que... Ça te met dans certains types de pensées, tes pensées te mettent dans un certain type de consentement pécamineux, et ce consentement pécamineux, bien entendu, va aussi faire engendrer un certain type d'émotion. C'est d'accord. Quelquefois, les deux sont liés en même temps, les pensées et les émotions. C'est pour ça que c'est pas si commode que ça. Mais quand tu te retrouves tout seul en priant et que cette émotion-là continue, indépendamment du fantasme correspondant qui l'a provoqué, alors à ce moment-là,
tu gères ton émotion, tu la laisses, tu essaies de la reconnaître, tu essaies de voir qu'est-ce qui se passe, mais qu'elle vient du fond de toi-même et que c'est toi qui souffres. Donc faites attention, dès qu'une jalousie vous ronge et jaillit, vite, on va prier. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Vite, une jalousie est en train de monter en moi, vite, je vais prier. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, comment est-ce qu'on fait alors? On est là justement pour l'expliquer. Oui. Mais parce que, comprenez, parce que cette fois-ci, la jalousie, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de moi. Et elle m'apprend, je dois descendre dans cette jalousie jusqu'à sa racine amère, où je découvre donc le lieu où Jésus m'attend. Jésus Sauveur m'attend. Et il faut que je rentre par la porte de cette expression-là. Je ne dois pas la faire disparaître, je dois rentrer dedans et descendre dans la racine amère. À l'intérieur de moi, c'est dans ce dynamisme, cette émotion, c'est un dynamisme d'amour, c'est une tension. Et il faut que je rentre dans cette énergie d'amour qui est là et que je descende en elle. Il ne faut pas que je me mette en déni, en refoulant, en niant, en cachant, en recouvrant, en considérant que l'émotion vient de l'extérieur. Parce que si c'est fait comme ça, je chute à tous les coups, plan spirituel. Est-ce que c'est comprendre? Je me mets en état de déni. Le fameux déni, on dit, moi, ça va très bien. Finalement, non, je suis pas, j'ai un autre niveau. Regardez, j'ai un autre niveau, moi. Comment ça, vous voyez? Souvent, c'est ça, l'attitude pharisienne. Et ça va entraîner qu'on va dire, par exemple, non, mais non, finalement, je suis pas si en colère que ça, c'est rien du tout, ou alors on va dire ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est toi qui m'agresse, hein. Espèce d'eux, etc. Ou alors vous allez dire, c'est ta faute, ou alors, vous n'allez pas reconnaître qui vous habite. Donc les deux erreurs qu'il faut vous rappeler par rapport à ce stade 2, c'est qu'il ne faut pas confondre donc les pensées et les sentiments. Et si vous confondez les deux, vous avez un petit signe. Un petit signe qui montre que vous confondez la lutte contre les pensées, la lutte contre les émotions, c'est quand même important. Savoir si votre combat, vous le mettez là ou là. Les gens sont tellement nuls, ils n'arrivent même pas à voir si c'est dans leur tête ou si c'est dans leur cœur. C'est quand même incroyable. Il faut être nul à ce point, mais on en est tous là, hein, donc ne vous inquiétez pas. Bon. Donc nous, on est nuls. Hein. C'est comme le groupe à la télé. On est nuls, de toute façon. Bon, donc, il ne faut pas s'en faire. Mais on reconnaît ceci, vous allez voir tout de suite, c'est qu'effectivement, je me mets assez facilement, l'attitude pharisienne, l'attitude perfectionniste, à juger les autres. Vous voyez? Parce que si vous pensez qu'il faut les refouler, c'est vite vivre autre chose, au fond, ne pas l'accepter. Eh bien, à ce moment-là, vous vous mettez en occasion de chute, vous vous mettez à juger, parce que vous dites, voilà, je repousse l'agressivité. Il y a en moi une colère. Il y a vraiment une colère. Hein. Il y a une colère. Je repousse l'agressivité. Je fais un sourire. Moi, je souris. Moi, je fais un effort. Moi, je rends service. C'est pas moi, je souffre. C'est pas moi, je suis en colère. C'est moi, je fais un effort. Et lui, non. Vous comprenez? C'est sûr que ça. Et lui, non. Moi, je me maîtrise, regarde. Je suis un sourire. J'ai pas envie du tout, mais je suis un sourire. Personne ne le voit, tout le monde le voit. Mais lui, non. Lui, il donne pas le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Il donne pas le change. Moi, je donne le change. Lui, non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et alors, je juge, je condamne, je méprise. Et au fond, je ne vois plus que donc l'extérieur de la coupe soit plus du tout l'intérieur de la coupe. En moi, en tout cas. Je ne vois pas l'intérieur de la coupe. Ou bien alors, je fais finir par reconnaître que je suis rempli de tristesse, je suis rempli d'amertume. Ah, ça, c'est la deuxième possibilité aussi. Alors, du coup, je me décourage, je dis, bon, là, je suis rempli de tristesse, c'est foutu. Je pensais qu'avec le bon Dieu, ça irait mieux quand j'étais dans le péché. Au moins, je me décourageais pas, je pensais toujours à un péché supplémentaire. Bon. Ouais. Alors, tandis que là, je me décourage, je déprime, j'ai le cafard. Voilà les deux possibilités, hein. L'attitude perfectionniste, celui qui est très orgueilleux, parce que finalement je déprime, et ce cafard est le signe d'un orgueil blessé. Donc, deuxièmement, deuxième erreur, donc première erreur, vous avez compris, ne pas confondre la pensée et l'émotion. Deuxième erreur, ne jamais affronter dans le combat spirituel une émotion de face. Rentrer en elle, il ne faut pas l'affronter de face. Je vais m'expliquer. La tentation, c'est pareil. Si vous avez par exemple une tentation avec bien pornographique, par exemple, ça vaut moins. Oh là 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 là. Alors, vous dites, oh, je vais lutter. Hein. Mais alors, vous regardez bien. Hein. Et vous luttez contre. Il ne faut jamais faire ça. C'est ce qu'a fait Ève au pied de l'arbre. Le serpent était là, avec sa tentation, et elle a discuté avec la tentation. Elle a discuté avec le serpent. Il ne faut pas discuter avec une tentation. On n'affronte pas une tentation de face en disant, nous. Dieu qui nous l'a dit. Moi, je suis fort. Hein. Oh, un fantasme, sérieux. Voilà. Il y a une affiche, il y a un film bien sanglant à la télé. Je le regarde, moi. Et puis, de toute façon, combat spirituel, donc, je bénis et tout. Je regarde de l'extérieur. Hein, de l'extérieur, là, je suis fort. Le monde nouveau, je désagrège. Mon œil que tu désagrèges. Tu désagrèges à rien du tout. Sauf si tu intronises Marie-Reine chez toi, tu fais venir le poste de télé. À ce moment-là, implosion du poste. Mais c'est ça, c'est un miracle. C'est pas normal. C'est un miracle. C'est pas normal. Bon. Et non, il n'y a pas de désagrégation, il n'y a pas d'immunisation si j'affronte de face. Et l'émotion, au fond, d'une manière totalement différente, c'est un petit peu pareil. La tentation au niveau de l'imaginaire et du psychique et du fantasme, si je l'affronte de face, je rentre dedans et elle rentre en moi. C'est pour ça qu'il faut mettre Jésus tout de suite. Si c'est une tentation de penser. Jésus tout de suite. Il faut vite se réfugier au fond de notre âme. Pas dans le fond de notre cœur, ni au fond de notre esprit, mais au fond de notre âme. De notre âme est si liée à notre corps. Et vite trouver Jésus là. Cet océan de lumière de Jésus. Et que Jésus puisse porter avec moi cette souffrance d'être vulnérable. Ça, c'est contre les tentations. Mais l'émotion, elle, eh bien, elle ne s'affronte pas de face non plus. Vous avez une émotion qui monte, eh bien, vous ne devez pas l'affronter tout seul. Rappelez-vous toujours ça, il vaut mieux pas affronter tout seul une tentation en disant voilà, je vais laisser monter cette émotion et puis je vais gérer ça tout seul, je vais garder ça pour moi, je vais faire ma petite analyse. Quoi. Parce que si on fait comme ça, petit à petit, vous allez, non pas verbaliser, mais vous allez agir en fonction de cette émotion. Il faut la dire, c'est pour ça qu'on se confesse d'ailleurs. Il faut la dire avec quelqu'un, il faut la confesser. Sinon, vous pensez que vous êtes assez fort pour lutter contre l'aspect pécaminé de cette tentation. Or, vous n'êtes pas assez fort. Oui, quand vous serez dans l'union transformante, c'est d'accord. Quand vous serez dans l'union transformante, vous pouvez recevoir toutes les agonies de ces manies que vous voulez. C'est d'accord. C'est pas ma volonté, c'est celle de Dieu que je veux.
On n'est pas responsable, comprenez, quelquefois. On a des émotions qui nous portent à faire des trucs, mais qui sont vraiment abominables. Abominables. Hein, je pensais au petit frère qui est mort, je crois, qui est passé un jour à Montpellier, qui nous a avoué des trucs abominables. Mais quelque part, il avait raison, quelque part. Comprenez, il exagérait, bien sûr. Mais quelque part, il avait raison. Quelque part, il avait raison. Il exagérait parce que lui, il confondait, lui, les pensées et les émotions. Alors là, c'est là où il se plantait dedans. Il se plantait complètement. Mais n'empêche qu'il y avait des tendances abominables qu'il fallait accepter de formuler. Lui, il demandait il donnait des idées, lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il fallait faire. Mais. Alors, eh bien, si vous avouez, si vous confessez la racine, donc, de vos péchés, c'est vrai qu'à un confesseur, comme ça, et vous dites exactement, mais vous êtes plus grand que celui qui ressuscite un mort. Rappelez-vous toujours cette formule de Saint Isaac le Syrien. Elle est très importante. Elle est très importante. Et ça, je peux vous affirmer, moi, pauvre bonhomme que je suis, tout pauvre que je suis, pauvrement, je tiens à vous le dire, ça m'est arrivé. D'être témoin ou occasion, je vais dire, de miracles, ça c'est vrai, de miracles spectaculaires. Mais je sais très bien et je vois clairement et j'avoue que j'ai fait des miracles beaucoup plus grands lorsque j'ai avoué mes péchés en confession. Et je le sais, et j'en suis conscient, et on le sait. Jésus le dit d'ailleurs. Ouais, mais enfin, Seigneur, en ton nom, on a ressuscité les morts, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Je ne vous ai jamais connu. En dehors de mes yeux, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Oui, mais là où j'étais pauvre, Jésus se cache dans nos pauvretés. Tu venais me voir. C'est là où j'étais que tu es venu me voir. Mais il faut confesser. Confesser ça. Et donc, il faut accepter de nommer cette déviation dans laquelle on se trouve. Vous comprenez, j'espère, ça. Donc, comme une autre citation, c'est Dorothée de Gaza qui dit: il faut combattre les émotions avec science, c'est-à-dire en les connaissant. Une émotion est là, et il faut la regarder pour la connaître et la nommer, la verbaliser. C'est la même chose. Il faut reconnaître la vérité de ce qui me ronge, de l'émotion qui m'habite, de la racine qui est en moi. Saint Jean Climac, encore un ermite. Les amis sont très forts pour ça, parce que quand vous êtes seul, vous avez le temps. Quand tu commences à voir tes péchés aussi nombreux que les grains de sable sur la mer, c'est le début de l'illumination de l'âme. Je répète, quand tu commences à voir tes péchés aussi nombreux que le sable de la mer, c'est le début pour toi de l'illumination de l'âme. C'est pas quand tu dis: ah, oh, ça commence à aller bien. Oh ouais, ça commence pas mal. Je fais beaucoup moins de péchés. Ça va beaucoup mieux. Ah ben, c'est peinard comme ça. Comme ça, ouais, jusqu'à la fin, pas de péché, hop, c'est bon. Pas du tout. Ça, c'est parisien, ça. C'est l'état. Bien sûr, il faut passer dans un état pour ne pas de péché. Mais il faut se convertir. C'est autre chose, pas ça de péché. Pas. Il faut que la source de l'amour en nous soit libre. Et que ce Jésus, que j'en puisse rentrer là où Jésus se trouve, pour que ma croix, Jésus puisse la porter avec moi. Que, je veux dire, c'est ce Jésus qui me porte. C'est ce que dit Jésus aux pharisiens d'ailleurs. Si vous dites: je n'ai pas de péché, votre péché demeure. Bon, eh bien, quand les pharisiens ils disent: ben, vous dites, vous voyez,
Je suis venu pour que ceux qui disent voir deviennent aveugles. Et que ceux qui disent qu'ils sont pauvres peuvent voir. Et vous dites que vous n'avez pas de péché, votre péché demeure. Alors votre racine amère, votre agressivité, votre haine, ça va demeurer. Si vous dites non, si vous dites il faut passer à autre chose, il faut vite aller au groupe charismatique, il faut faire des guérisons, il faut faire des thérapies, il faut faire, pas de chérer. Il faut gagner beaucoup de pognon, il faut avoir beaucoup de capital. Il faut avoir. Donc à ce stade, et donc la tension correspondante, elle va continuer à augmenter, évidemment, avec toutes les conséquences que ça va avoir. Donc à ce stade, les grandes étapes du... dans ce stade 2, les grandes étapes du... Je m'excuse, je me suis attardé bêtement, mais c'est quand même, s'il fallait revenir. Et les étapes du combat spirituel sont en 4 étapes. Première étape. Premièrement, voir et reconnaître l'émotion qui m'habite comme faisant partie de moi. C'est mon bien. Je ne le nie pas. Je confesse ce qui m'habite. Et j'admets que j'ai en moi un moment de haine, par exemple, vis-à-vis de mon enfant. Vis-à-vis de mon enfant. C'est terrible. On a un enfant et on a un moment de haine contre cet enfant. Premièrement, je le reconnais. Je ne le nie pas. Je le confesse. Deuxièmement, je vais éviter de le combattre de front, en face. Pourquoi ? Parce que je suis trop faible, trop fragile, je suis trop faible. Donc, je vais m'aider, quelque part, par un dialogue. Ça peut être un dialogue devant le Saint-Sacrement, marquez bien, exposé. En disant, voilà ce qui m'habite, Seigneur, voilà ce qui m'a à ta lumière. Je peux, à l'aide de Jésus, exposer dans le Saint-Sacrement. Ah oui, tout à fait. Ah oui, je peux, vous comprenez, c'est quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur de moi, qui va m'aider à verbaliser. Ça peut être quelqu'un qui est proche de moi et qui me dit, mais dis donc, question, je sais pas et tout. Bon, faut pas non plus analyser, faut jamais faire ça. Si ça dure beaucoup plus qu'un quart d'heure, c'est que ça commence à être de la verbalisation analytique. Donc c'est plus du tout le repérage d'une émotion, il faut faire attention à ça. Donc troisièmement, il va falloir recueillir dans mes mains cette émotion. Donc ne pas l'affronter, la verbaliser, la reconnaître. Une fois que je l'ai reconnue, je la recueille dans mes mains, vous voyez, pour passer en dessous. Je la recueille dans mes mains, je la prends, elle est à moi. Et je l'enfonce dans le cœur de Jésus. Je l'enfonce, je le mets au pied de la croix de Jésus. Je le dépose moi-même comme un fruit mûr d'ailleurs. Au pied de la croix de Jésus, au pied du bon Dieu, au pied de celui qui est la source de « je vais l'offrir » de manière à en être lavé, à en être délivré. Et enfin, quatrième étape, difficile, mais possible, c'est donc, ça c'est l'offrande, le dépôt. La quatrième, c'est la gratitude. Je vais trouver quelque chose de nouveau en ayant fait ça. En ayant fait ça, je vais trouver une gratitude. Je dis, mais c'est formidable d'avoir ce truc si négatif qui est en moi, parce que ça me fait découvrir à quel point je suis orgueilleux. Et grâce à cette émotion de haine, de découragement, je découvre ce qui est en dessous. C'est un orgueil blessé. Je suis vraiment très orgueilleux. Je n'aurais jamais pensé que j'étais si orgueilleux. Je découvre le vrai visage de cette source de déviation de l'amour. Et du coup, je suis reconnaissant par rapport à cette émotion. Cette émotion de tristesse me fait découvrir son vrai visage qu'elle voulait cacher au niveau de l'amour et où est le refus de l'amour. Et enfin, je vois où se trouve cette faille. Et du coup, je rentre dans une véritable humilité. Mais dès que je trouve ma véritable identité et ma véritable blessure, je trouve mon humilité. Et vous savez bien que dès que je trouve mon humilité,
je trouve ma pauvreté. À ce moment-là, je suis libre, je suis joyeux. Il n'y a rien de plus joyeux que les gens qui sont pauvres. Hein. Les gens qui sont riches ne sont pas joyeux. Hein. Mais les gens qui sont pauvres, ils sont joyeux. C'est évident. C'est évident, cette gratitude. Vous voyez, je suis capable de dire merci au Seigneur. Par exemple, quand je me suis confessé que je me suis répandu dans la boue, encore une fois, je me suis répandu dans la boue et tout. Oh, vraiment, je sais pas. Bon, et ça m'humilie et tout. Mais du coup, bon, c'est vachement dur de l'exprimer, c'est vachement dur de le déposer. Vous voyez, comme la confession, c'est extraordinaire une confession, parce que la confession, elle vous donne ces quatre choses, hein, automatiquement. Hein. Vous le donnez, vous l'offrez dans la croix de Jésus, et vous le déposez. Et effectivement, c'est oublié. Et il ne reste plus qu'une seule chose, c'est cette gratitude vis-à-vis de Jésus, non pas parce qu'il vous a lavé de ça, mais parce que du coup, vous êtes humilié par ça, et que du coup peut commencer en vous, au fond de votre cœur, l'expérience de l'humilité. Alors, vous dites merci Seigneur, parce que grâce à cette chute, je fais l'expérience de l'humiliation, et puis je peux commencer à être petit, pauvre et humble. Alors il y a une gratitude qui commence à apparaître. Je trouve en moi la source du silence. Je suis content de ne plus avoir rien à dire, de ne plus parler, que personne m'écoute, de toute façon je suis pauvre. Et j'y trouve mon bonheur, parce que c'est vrai quoi. Tandis que sinon, c'est la mousse. Vous voyez ? Alors, il y a cette joie. Je découvre cette humilité. Et cette humilité ouvre la porte à la joie spirituelle. À travers donc cette angoisse d'être vu tout nu, c'est cette joie de savoir que Dieu me sauve enfin. Enfin, Dieu me sauve. Jésus est là pour me sauver là. Et là où je n'étais pas sauvé, Jésus vient me sauver, Dieu vient me sauver. C'est la joie au fond de faire l'expérience de la miséricorde. Vous savez, toute la petite voix de l'intérieur d'enfant Jésus, c'est ça. C'est la joie de goûter la douceur de Dieu, de la paternité de Dieu, dans ma toute petitesse, de mon repentir, et de consoler le cœur de Dieu, parce qu'on ne console pas le cœur de Dieu quand on ne fait pas de péché. Hein. Ça ne veut pas dire faites le plus de péché possible. De toute façon, on en fait plein. Mais on console le cœur de Dieu quand on permet au bon Dieu de nous guérir. Si Jésus crucifié il est là et puis personne ne vient prendre son sang pour être sauvé, il n'est pas consolé du tout. Mais il est consolé, Jésus crucifié, broyé, si on prend dans son cœur, si on dépose dans son cœur toutes nos pauvretés, toutes nos émotions avec tout ce qu'elles ont d'humiliant. Alors à ce moment-là, on console, puisqu'il peut justement pas les effacer, mais laisser la place à l'humilité. À la place, c'est l'humilité. Et du coup, l'ouverture à la joie spirituelle profonde. Et donc, au cœur de ce magma, qui ne va peut-être pas disparaître tout de suite, parce que ça dépend des émotions, ça, il va y avoir une espèce de nuée de lumière, une nuée profonde, qui ne supprimera peut-être pas, par exemple, la souffrance, mais une joie spirituelle permanente, qu'on sentira très, très bien d'ailleurs. Voilà. Donc à chaque fois qu'on laisse le bon Dieu nous oindre, nous cicatriser, nous bénir, nous laver, nous guérir, à chaque fois qu'on fait ça, on va chercher dans le cœur de Jésus sa joie à lui, et qui est précisément de nous porter vraiment. C'est ça, je suis le bon berger. Le stade 3. Voilà. Le stade 3, qui est un stade que je rajoute, que vous ne trouverez pas en psycho, n'est-ce pas ? Parce que vous pouvez remplacer déposer au pied de Jésus et puis déposer au pied de... Hein ? Vous savez, par exemple, dans l'expérience de psychologie, on dépose ça, aller au pied de, je sais pas quoi, tu le déposes, tu le donnes, et puis c'est tout, à un ami. Ou à ce qui représente pour toi la source de tout amour, quoi. Hein? Bon.
Donc dans le stade 3, on va regarder le point de vue spirituel proprement, à proprement parler, et c'est au fond tout simplement le stade du chemin de destin. Ceux qui désirent vivre la gestion des émotions jusqu'au point de vue donc d'une voie, je suis le chemin, la vérité, la vie, de la sainteté. Une voie de sainteté, la voie chrétienne. De la gestion des émotions, elle implique une pleine maturité affective et une juste gestion du combat spirituel. Il consiste, trois points. Premièrement, agir d'une façon adaptée, par une action appropriée. Donc agir d'une façon adaptée, on n'est pas à côté de la plaque, on ne se fait pas illusion. Avec une action appropriée, au lieu d'obéir à l'émotion par un acte qui le prolonge et l'aggrave, par une action appropriée, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui va agir à travers ça. Je vais agir dans l'Esprit Saint, en répondant en réalité aux besoins sous-jacents, à la demande sous-jacente, aux besoins d'amour sous-jacents à cette émotion. Alors, je vous le rappelle, ce besoin sous-jacent, c'est un besoin d'amour avec un grand A, d'amour éternel, d'amour absolu, d'amour très simple, mais d'amour parfait, et d'amour parfaitement surabondant. Donc, en se laissant aimer par Dieu, en se laissant soi-même aimer son frère, en acceptant de se laisser aimer son frère, et en même si mon frère ou mon conjoint m'agresse, parce qu'à travers cette agression, si vous voulez, l'Esprit Saint, il me fait comprendre quoi ? Il me fait comprendre qu'il y a une demande d'amour de son côté. Il y a une demande d'amour, il veut mon bien, peut-être quelque part. Il me dit, oh, mais t'as l'air bien énervé. Alors, comme je refoule le point de vue, je dis, non, je suis pas en colère, ça m'énerve encore plus. Vous comprenez ? Alors que c'est justement celui qui me permet de dire, bah oui, effectivement, c'est vrai, je suis un petit peu en colère. Ou alors, vous donc, si vous ne faites pas comme ça, lui, il vous dit, mais enfin, change, regarde la vérité qu'il y a en toi. Ça, c'est une expression d'amour. Donc, vous voyez bien, je vais enfin accepter de me laisser aimer par mon frère. Accepter que l'autre, il est là pour moi et pour Dieu. Vous voyez ? Donc, il s'agit de répondre au besoin profond qui est en moi. Et ce besoin profond qui est en moi est bloqué en général par un refus fondamental de se laisser aimer. Ça, c'est vraiment le refus profond qui est en nous qui nous empêche d'être des stars. Refus d'être source d'amour pour les autres, de susciter l'amour, pas de séduire, hein, une différence, hein, de susciter l'amour. Et je refuse de susciter l'amour parce qu'au fond de moi, il y a un refus de me laisser aimer. Et c'est ça, le refus de la sainteté. C'est ça, le refus de la vie spirituelle. C'est ça, le refus de Dieu. C'est ça le refus du Rédempteur. C'est ça le refus du Consolateur. C'est ça le refus du cœur sacré de Jésus. C'est ça le refus du cœur immaculé de Marie. C'est ça le refus du Saint-Esprit. Fondamentalement, c'est ça. Laisse-toi aimer. Laisse-toi être consolé, enveloppé, caressé, chouchouté par la miséricorde profonde de Dieu. Pas par une apparition extérieure, mais par cette caresse d'amour, de la grâce. Par cette humilité si simple, si profonde du bon Dieu, par l'Esprit Saint qui t'enveloppe, tu laisses-toi rentrer dans cette épreuve aussi de vérité, laisse-toi guérir, laisse-toi te relever, laisse-toi être sauvé, laisse-toi être pardonné. De manière que tu vas pouvoir enfin vivre de ton affectivité en toute vérité, c'est-à-dire que ton intelligence va rentrer enfin dans ton cœur, et que les deux grandes puissances de ta vie spirituelle vont s'unir. Ton amour sera véritable, ton intelligence descend dans le cœur. Et tu seras dans la vérité de l'amour. Alors à ce moment-là, oui, tu vas pouvoir vivre enfin d'une paisible harmonie entre la vie contemplative et la vie affective. Le tête et la tête et le cœur vont être unis. Quand on dit que Jésus c'est la tête de l'Église et que Jésus c'est le cœur sacré et la charité incarnée de la très sainte Trinité. Quand Dieu s'incarne, c'est Jésus, et quand c'est l'amour divin qui s'incarne, c'est le cœur sacré de Jésus. Et quand la grâce s'incarne, c'est Marie. C'est les trois incarnations. Toujours se rappeler les trois incarnations. Et parce que à ce moment-là, tu vas vivre dans ce chemin du stade 3, d'une intelligence qui est éclairée par l'Esprit Saint. C'est l'amour du Père et du Fils qui va éclairer ton intelligence et tu vas pouvoir enfin vivre de l'Esprit de sagesse. Regardez quand nous faisons raison, par exemple. Quand nous faisons raison, on peut quelquefois avoir, oui, des touches d'amour, des touches anagogiques, comme on dit, des touches d'amour. On peut avoir des touches d'intelligence. Ah oui, ça va mieux, j'y vois un peu plus clair. Je commence à comprendre le mystère de l'incarnation, cet amour tout à fait absolu de Dieu. J'ai saisi quelque chose. Bon, on peut avoir des touches de don de science. Ah oui, que Dieu est présent dans toute la nature. À quel point il est présent, c'est extraordinaire. Je viens de saisir ça, esprit de science. Je peux saisir aussi une nouvelle source d'amour. Vraiment, que Dieu, c'est mon Père. Je l'aime, don de piété. Je dis sa miséricorde. Mais l'esprit de sagesse, c'est rare. L'esprit de sagesse, c'est cette harmonie extraordinaire, liquéfiante, subtile, odoriférante, savoureuse, indicible, éperdument persistante de la saveur de l'Esprit Saint. Qui me fait saisir par expérience du cœur l'intelligence de l'amour de Dieu. Vous voyez, cette sagesse-là, c'est le cœur même de la gestion des émotions au stade 3. C'est l'esprit de sagesse. Grâce au stade 3, on va pouvoir enfin découvrir au fond de nos blessures affectives des ressources nouvelles. Des ressources nouvelles. Et alors là, je reprends le langage qui est dit, disons classique, de la psycho. Je sens une émotion d'énervement. Le fameux PNL, n'est-ce pas? Le fameux PNL dont je vous avais parlé dans la fameuse guérison, le travail de guérison de la mémoire, au sixième stade, vous savez. C'est juste avant le travail de deuil, il y a le PNL. Il faut trouver des ressources nouvelles. Il faut des ressources nouvelles. Ça veut dire exactement programmation neuro-linguistique. Programmation neuro-linguistique. Le PNL. Une fois que j'ai trouvé ici ce stade 2, je peux trouver dans cette gratitude de nouvelles ressources. Je trouve mes vraies ressources. Et du coup, je vais formuler les choses d'une manière toute autre. Je vais trouver des nouveaux mots linguistiques. Et les mots vont avoir une puissance. Parce que ces mots, ce ne sont pas seulement des mots qui vont me servir d'outils pour refouler, pour accuser, pour juger, des mots d'illusion. Ce sera des mots vivants. Ce sera des mots qui viendront de mon corps, liés à mon âme, liés à Dieu. Ce sera des mots où le Verbe de Dieu se formule lui-même à travers moi. Et c'est une ressource nouvelle, comprenez ça. Neuro, à ce moment-là, neuro, les neurones. Ça vraiment, c'est extraordinaire, vous sentez bien. Les neurones, c'est la cellule. Hein. Et puis programmation. Venu le fameux émetteur récepteur extraordinaire. C'est merveilleux ça. Voilà le vrai PNL. Voilà le vrai PNL. Alors eux, ils font un PNL en psycho, etc. Quand je reste au niveau psychologique, je fais du PNL en disant, bon, écoute mon pote, on va discuter, on va formuler les choses autrement. Hop. Hop. Et on va formuler
Hein, New Age, c'est ça. On va mettre, ah, tu vois, autre chose. On va formuler les choses autrement, une autre vision, des nouveaux mots. Et hop, ça y est, ah oui, ça y est, ça commence à aller mieux. Oh. Supramental, les mecs. Supramental. C'est super, supramental. C'est petit, ça. C'est pas petit, pardon. C'est métapsychique. C'est bien pire. C'est l'antichrist. C'est l'antichrist, ça. C'est extraordinaire, cette histoire de PNL, hein. Vous avez déjà entendu parler de PNL. Vous les infirmières, c'est obligatoire, t'es obligé de l'apprendre. Accompagnement de deuil, tout ça, j'étais obligé. PNL, j'étais obligé. Sixième stade. Bah, c'est pas le sixième stade, non, c'est dans le travail d'accompagnement des mourants, des malades, tout ça. À partir du moment où tu as réussi à aller faire formuler les choses autrement, ça va mieux. Enfin, t'as rien résolu comme problème. T'as pas résolu. C'est un tour de passe-passe, si tu veux. Vous comprenez? Tandis que dans le stade 3, c'est toi, c'est ta mémoire, ton logique, ton corps, ton âme, ton esprit, c'est Dieu, c'est toi, ta source d'amour qui rejaillit, les ressources nouvelles, comprenez? Ça, c'est important. Ah là là! Ah là là, c'est donc beaucoup plus que les ressources psychologiques des stades de thérapie. Mais enfin, ce sont les. À ce moment-là, l'Esprit Saint est libre de se répandre, de s'enfoncer. De saisir en moi tout mon espace corporel, intérieur, de tous mes temps, de tous les instants de ma vie, dans cet instant actuel, et se répandre en moi. Vous comprenez, c'est tout à fait différent, parce que cette tension d'amour qui se cache derrière une émotion, donc, elle va... Et donc, être utilisé grâce à ça pour agir, cette fois-ci. Agir, pas faire, ou accumuler un avoir, et pas faire un truc. Faire. Et je crois que c'est parce que je vais faire un truc que ça va m'arranger, mais non. Oui, ça peut aider, et c'est bien, ça rend service. Mais agir, c'est le cœur qui agit. Mais la différence entre faire et adhérer. Attirer, c'est faire. Il faut toujours faire quelque chose. Et attirer, c'est l'amour. C'est l'artiste qui fait. Et c'est l'amoureux qui agit intérieurement. L'agissement, c'est un agir. L'agir, c'est en français, non. Mais en latin, c'est très, très intérieur, l'agir. C'est une activité profonde. Et tu vas agir d'une façon juste. Et à ce moment-là, cette tension, grâce à ça, va être source de croissance pour toi. Source de croissance psychique. Source de croissance pour ta vie spirituelle. Et source de croissance aussi, et surtout, pour le corps mystique de l'Église, pour tes frères, pour ceux qui font corps mystiquement avec toi, pour la communauté. Agir d'une façon juste, ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire... Là où le péché surabonde, il y a une grâce qui m'attend, la grâce surabonde. C'est là où je suis pécheur que je vais trouver quelquefois au fond, une grâce nouvelle. Et il faut, là où m'est montrée grâce à l'Esprit Saint une émotion pécamineuse, il faut qu'à ce sentiment, aussitôt, je comprenne que se cache en dessous une grâce à découvrir. Une ressource nouvelle, une grâce à saisir. Donc, charte de la gestion des émotions au stade 3, je vous la dicte. Toute la finesse du combat spirituel consiste à apprendre à saisir la grâce qui est associée, je vais revenir, à l'émergence et à la remontée de l'émotion. Je répète, charte pour la gestion des émotions. Parce qu'il faut qu'on trouve des chartes maintenant, hein. C'est moderne. très très moderne de faire des chartes. Alors on va faire des chartes. Pour une vie nouvelle, hein, extraordinaire. Pour des ressources nouvelles. Bon. Chartes. Toute la finesse du combat spirituel consiste. Vous savez à quoi ça sert une charte? C'est que vous la notez quelque part, vous la mettez sur votre table de nuit, et le soir vous le lisez. Vous lisez la charte. Et puis petit à petit, ça y est, vous puisez ce que ça. Une charte, c'est ça. Vous la lisez le soir. Et vous dites, tiens, première charte donc. Toute la finesse du combat spirituel consiste à apprendre, ça s'apprend, à saisir la grâce qui est associé à l'émergence ou à la remontée, comme vous voulez, ou les deux, à l'émergence et à la remontée de l'émotion. Voilà la charte. Concrètement, ça veut dire quoi? À chaque fois que vous avez une émotion, toutes ces 5, 6, 6 types d'émotions, découragement, agressivité, colère, révolte, tristesse, etc. Ou anxiété. Ouais. À chaque fois que vous avez ça, tout de suite, montez-vous une émotion, laissez-la monter, repérez-la, dites c'est vraiment une émotion, ça monte vraiment, c'est pas une illusion, c'est pas c'est pas un phénomène psychotique. Non. Et une fois que vous avez dit, ah mais dites-vous bien de quoi il s'agit, et dites tout de suite, surtout, Seigneur, mais profondément, à la racine de ça, où est, Seigneur, la grâce qui est liée à cette émotion? Apprends-moi à la saisir. Et c'est là qu'il faut demander au Seigneur. C'est comme ça qu'on passe en dessous de l'obstacle. Il n'y a pas d'autre moyen. Je crois que c'est clair. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Pour quelqu'un, c'est pas clair? Je répète. Une émotion monte. Suppose, par exemple, supposons que tu vraiment t'es fatigué, tu as la diarrhée, vraiment pas possible, ça coule de tous les côtés, il faut presque des langes et tout ça, ce qui, comme nous le disions tout à l'heure, ça camoufle une terreur refoulée, et du coup ça se traduit donc terreur ancienne. Et en même temps, des montées de terreur qui se traduisent par des mécanismes de défense. Et les mécanismes de défense ont une connotation agressive. Je prends un exemple comme ça. Bon. Alors, comment tu vas faire? Tu vas dire, bon, il ne faut pas que je sois agressif. Tu vas dire quoi? Ça ne va pas. Bon. C'est comme ça. Donc tu l'acceptes, tu laisses monter. Tu ne la formules pas non plus. En disant, en murmurant, en disant, donc en obéissant à l'émotion. Tu relaisses l'émotion, tu la regardes, tu la laisses monter, aller jusqu'au bout d'elle-même. Ça va? Tu la repères, tu aperçois que ce n'est pas finalement une émotion d'agressivité, que c'est une peur plutôt. C'est plutôt une peur. Ce n'est pas de l'agressivité. Oui, si tu obéis à cette émotion et que tu vas la formuler par des jugements, tout ça, les gens vont dire, oh, mais c'est de l'agressivité qu'il a. Mais ton émotion, c'est pas de l'agressivité, c'est de la terreur. Ça va? Donc tu arrives à la formuler. Bon, tu vas pas lutter contre la terreur. C'est la manière dont ton émotion en toi se formule. Ça va? C'est la manière dont ta soif d'amour se formule parce qu'il y a une déviance à la racine. Donc toi, tu vas dire, charte. Vite, tu te précipites dans ta chambre, tu te précipites à la table de nuit, charte, tu lis. Toute la finesse du combat spirituel consiste à apprendre à saisir la grâce qui est cachée en dessous de l'émergence et de la montée, mais justement, c'est en train de monter, les mecs, de l'émotion. Et tu lis la charte. Et tu dis au Seigneur, du coup, tu comprends un jour qu'il faut dire au Seigneur, Seigneur, enfin j'en ai marre
Tu vois pas qu'il y a cette terreur là, que mon amour se transforme en sentiment de terreur. Jamais, Marc. Est-ce que, Seigneur, je t'en supplie,
tu as le droit d'exprimer, mais pas plus.
Seigneur, je t'en supplie, montre-moi où, en dessous de la racine de cette terreur, où se trouve la grâce qui est cachée au fond de ma soif d'amour. Et apprends-moi, je t'en supplie, à saisir cette grâce qui est en dessous. Et tu vas t'apercevoir, que des ressources nouvelles vont jaillir de l'endroit où tu saisis la racine qui est en dessous.
Il y a un feu et puis il y a la fumée, quoi.
Mais la fumée, c'est pas le feu. Et le feu, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça chauffe là-dedans. Oh, ça brûle quelque part. Ça n'enlève pas la tête. Ça supprime pas forcément les émotions ultérieures. Mais n'empêche qu'il y a des ressources nouvelles qui apparaissent. Ça va? Une grâce nouvelle apparaît. Mais pourquoi? Parce que nous sommes dans le mystère de la croix. Là où il y a le mal, eh bien Jésus a mis la vraie vie. Où est-ce qu'il l'a mis? Il ne l'a pas mis dans les endroits où on va bien. Il l'a mis dans les endroits où nous sommes mal. Et pas au milieu, comme les pompiers qui prennent des canadaires et puis par-dessus. Non, non. À la racine. C'est là où Jésus se met. Et c'est là où il met la vraie vie. Et donc, comme la vie spirituelle, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, comme dit Saint Séraphim de Sarov, la vie spirituelle, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Tu ne peux acquérir le Saint-Esprit que là. Et donc, toute attitude des saints, c'est ça. C'est un chemin de conversion. C'est grâce à ces émotions, trouver le lieu où le Saint-Esprit me donne toutes les ressources nouvelles d'un chemin de vie. Donc, résumé du stade 3, et je termine là-dessus. Premièrement, c'est l'attitude spirituelle, le stade 3. Mais ça, vous n'apprendrez pas ça en psycho. Premièrement, dès que l'émotion est là, j'appelle à l'aide et je crie vers Dieu. Je crie. Et le cri de la prière, hein, vous voyez, Seigneur, je coule sur moi encore. Oh, Seigneur, non, arrête, pleure bien. Voilà. Pour ne pas participer à la croissance de l'émotion, parce qu'il faut bien que tu nommes l'émotion, mais il ne faut pas que l'émotion augmente et s'amplifie dans son aspect négatif, pécamineux. C'est pas? Donc, il faut que tu la repères, et puis tu cries vers Dieu en disant « Non, 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 oh, oh, oh non !» Et tu cries, le cri. Pourquoi ce cri devant Dieu? Pour supprimer la croissance de l'aspect pécamineux de l'émotion. C'est pour que je ne puisse pas obéir par un acte, en parole, en pensée, ou un acte, je vais la gifler, je la gifle, à obéir à la fameuse émotion, parce que j'obéis toujours à l'aspect pécamineux, et jamais à l'aspect de la source d'amour. Donc, premièrement, donc il faut arrêter la prolifération de l'émotion par le cri de la prière. Mais vous voyez bien que vous pouvez pas formuler un cri, un vrai cri, s'il n'est pas repéré, s'il n'est pas verbalisé, s'il n'est pas déterminé. Deuxièmement, déposer cette émotion au pied de la croix de Jésus. Du cœur de Jésus ouvert, il est au fond de vous, et il est en dessous d'ailleurs, il est d'ailleurs tout à fait encore plus en dessous que cette grâce que vous devez découvrir. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Donc deuxièmement, vous prenez cette émotion, ce cri, et puis vous la déposez au pied de la croix de Jésus et vous l'offrez. Troisièmement, une fois qu'elle est offerte, vous dites quand même, Seigneur, c'est quand même pénible. Et vous lui posez la question, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi, Seigneur, cette émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, montre-moi ce que ça veut dire. Quatrièmement, devinant pourquoi et en quoi ça veut dire, vous repérez tout de suite, dès que vous dites ça, le Seigneur vous montre que c'est parce que vous n'êtes pas au bon niveau. C'est uniquement parce que vous n'êtes pas au bon niveau. Vous n'êtes pas vous-même, quoi. Vous êtes dans les dans la fumée, etc. Mais vous n'êtes pas au cœur de vous-même, vous voulez fuir de vous-même, vous êtes dans la fuite. Alors, vous devinant donc pourquoi, vous ouvrez à un nouveau choix. Je vais vous donner par exemple un exemple. Supposons par exemple que j'ai fait un choix à un moment donné. J'ai fait un choix particulier à un moment donné. Bon, là, je dis, moi, aller à la messe, personne n'y va, tous mes copains, ils rigolent, et tout. Puis je me sens tout seul à la messe, et tout. À un moment, les cloches sonnent, et tout. J'y vais pas. Hein. Quand j'étais gosse, je sais, à 10, 11 ans, 12 ans, ou 15 ans, je sais même. À un moment, j'arrête, quoi. Pourtant, je viens de faire ma profession de foi, il n'y a même pas 6 mois. J'ai promis que j'irai tout le temps à la messe. Mais vous voyez, ces gosses d'aujourd'hui, ils ont tous un problème comme ça. Tous. Hein. Ils ont ce problème-là, parce qu'un jour, ils voudraient bien, ils ont dit oui. Et ils en ont le désir. Mais les cloches sonnent, ils n'y vont pas un jour. Ah. Alors, mais c'est dans votre vie que vous avez fait ça. Depuis plus tard, ça va entraîner petit à petit un système de défense. À la fois suivante où les cloches sonnent, vous dites, bon, bah, ça va. Hein. La fois suivante où ça sonne, ça va encore. L'agressivité monte. La quatrième fois où ça sonne, les conneries, tout ça. La cinquième fois où ça sonne, vous voyez, ça change, vous comprenez? Il y a un système de défense qui s'installe. Et donc, petit à petit, il y a tout un mode de réaction. Puis, vous vous reconvertissez 10 ans après, vous avez 25 ans. Vous trouvez une nouvelle occasion de trouver en vous la vérité, de ne pas être dépendant du ricanement des autres. Hein. Qui soi-disant sont fiers, eux, d'être libres. Ils ne sont pas libres, ils savaient bien qu'ils ne sont pas libres. Alors vous trouvez une nouvelle autonomie, vous retrouvez votre authenticité, vous retrouvez votre vérité, vous retrouvez votre liberté. Et alors à ce moment-là, vous trouvez la racine, vous retrouvez cette racine-là, et vous décidez de faire autrement. Vous voyez, c'est ça, ce quatrième monde. Vous devinez le pourquoi, et du coup, vous vous ouvrez à un nouveau choix. Vous dites, voilà, je vais décider maintenant de faire autrement. Donc, cinquièmement, en posant ce nouveau choix, eh bien, je vais, après l'avoir demandé, où est la grâce qui était sous, cachée en dessous de cette émotion d'agressivité, de rejet, d'amertume, de dégoût, les cloches ont sonné. Une fois que j'ai trouvé cette grâce, je la saisis, je la prends, je vais la saisir et je vais y correspondre. Et un petit peu comme si je voyais là le Seigneur Jésus lui-même, Jésus, dans son amour brûlant, qui frappe à la porte de mon cœur et qui me dit, si tu veux, j'entrerai là. C'est là que je rentrerai. Et je lui dis, ok, amen, ok. Ok, c'est bon, ainsi soit-il, amen, ça va. Ça va, Seigneur, entre là, puisque tu frappes là, rentre là. Tu rentres là, Seigneur, ah, tu rentres là où j'ai mal, tu rentres là, à la source, là où jaillit l'émotion. Voilà, Seigneur, c'est bien, tu rentres. Sixièmement, en saisissant cette grâce, eh bien, vous allez voir ce qui se passe intérieurement. Vous allez être le spectateur de ce qui se passe intérieurement. Et qu'est-ce qui va se passer intérieurement? C'est toujours, pratiquement toujours, perceptible et sensible. Très paradoxalement, c'est sensible. Et les folles en Christ, vous savez, dans le désert, ils le savaient bien. C'est sensible. Vous avez par exemple une source de très grande chaleur qui commence à se répandre en vous. Votre cœur commence vraiment à brûler, à chauffer. Ben, et c'est pas que ça, ça dépend, c'est sur un type d'émotion. Ça. Mais sur d'autres, ça va être autre chose. Parce que ça, c'est des grâces qui ne sont pas tellement intéressantes. Sauf pour certains qui sont à un niveau très, très stade zéro. Le demi, quoi. Alors, moi, j'ai tout réglé déjà. Donc, vous allez faire donc expérience de la vie nouvelle. C'est ça, le sixièmement. Vous allez saisir la grâce et vous allez être spectateur de ce qui se passe. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez vivre intérieurement à travers ça. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a la présence de Jésus qui, effectivement... Et il y a quelque chose de sensible, ça je vous affirme, c'est vrai. Hein. Bah, sinon, ça va se traduire par un changement à partir de ce moment-là
radical profond, si vous voulez, dans votre vie, quelque chose va se modifier. Vous allez sourire très très facilement à quelqu'un que, vraiment, qui vous sortait par les poils du nez, quoi. Mais sans forcer, hein. Oh. Je sais pas, vous l'aimez bien. Ça a changé, ça c'est clair, c'est marrant. Hein. Les parents t'énervent plus. Non, ils m'énervent plus. C'est extraordinaire. Ils m'énervent. Pourquoi? Comment ça se fait, ça? Hein? C'est pas parce qu'ils m'ont dit ça ou ça, hein. Un petit peu plus. Derrière, là, les mecs. Alors, à ce moment-là, tu vas faire donc l'expérience de ce qu'on appelle la vie nouvelle. Oui? C'est comme ça, d'ailleurs, petit à petit, le corps devient spirituel. Parce que vous sentez bien qu'il y a une grâce du cœur de Jésus, du corps de Jésus, la sensibilité de Jésus. Le pape Pie XII, quand il a proclamé le Sacré-Cœur de Jésus, qu'il a fait une encyclique, il a bien dit que si vraiment on accepte le Sacré-Cœur de Jésus au fond de nous, comme ça, de cette manière, eh bien, le Sacré-Cœur de Jésus et son action va être sensible en nous. Parce que l'amour de Jésus est sensible, il a une sensibilité. L'amour de Jésus est physique, il a un physique, son cœur. L'amour de Jésus est spirituel aussi, bien entendu, et donc il va y avoir un changement. L'amour de Jésus, le cœur de Jésus, donne également l'Esprit Saint, donc je vais avoir une nouvelle manière de faire oraison. Et donc la vie nouvelle commence, la vie dans l'Esprit Saint n'a rien à voir avec celle qu'on imaginait avant dans nos désirs psychiques. Ah, si un jour je suis guéri de ça, voilà comment ça va être. Pas du tout, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on imaginait. Penser être, lorsqu'on espérait guérir de ce qu'on vit, n'a rien à voir avec ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a imaginé. La vie nouvelle en question ne peut se comprendre qu'à partir du moment où on l'expérimente. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est quand même quelque chose de tout à fait ordinaire et à un temps de très extraordinaire. Bon. Voilà. C'est bien, je suis content parce que j'ai fait le stade 2 et le stade 3. J'aurais voulu vous donner un exemple où on fait tout le travail. Un exemple. Je ne sais pas, c'est à vous peut-être de faire un jour de trouver cet exemple. Moi, j'ai noté ici sur mon cahier un exemple, perso. Hein. Je ne sais pas si ça vous intéresse, puisque vous avez un peu de voyeurisme. Le voyeurisme, c'est idiot, qu'est-ce qui se passe dans son truc à lui. Oui. Le canevas de la gestion des émotions. Donc n'oubliez pas que c'est un vécu, hein. C'est pas... intellectuellement que vous pouvez le comprendre, c'est pas une logique mentale ou intellectuelle, hein. Ça n'agisse pas. Hein. Mais vous avez vécu successivement toute une chose. Je rappelle que lorsque j'étais à Rimont, et donc j'étais déjà vieux, j'avais 30 ans, 31 ans. Et bon, ça faisait quand même depuis l'âge de 16 ans que j'attendais de recevoir l'ordination notale, n'est-ce pas ? Quand même assez extraordinaire, ça. Alors, il y avait un type qui... J'avais fait HEC, n'est-ce pas ? Alors, il y avait un type qui était rentré à peu près en même temps que moi, mais moi, j'estimais que c'était après, parce que j'avais pris la bille avant à Montmorin. Enfin, tu vois, tu fais une cuisine, pas possible, tu as la jalousie, c'est dingue. Dans le clergé, c'est ça qui est extraordinaire. Clérus, clérico, lupus, n'est-ce pas ? Un curé est un loup pour l'autre curé, n'est-ce pas ? Clericus, clérico, lupus. Ça, c'est sûr, c'est connu. La jalousie sacerdotale, c'est ce qu'il y a de pire. Il ne faut pas oublier que Jésus a été condamné à cause de la jalousie sacerdotale des grands prêtres. Il n'y a rien de pire. Et il fallait, hein. Que ce soit par la jalousie sacerdotale, qui soit condamnée. Et c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à vaincre au monde, hein. Beaucoup plus difficile que n'importe quelle autre jalousie. Ça, je peux vous affirmer que c'est vrai. Alors justement, là, moi j'attendais, vous vous rendez compte, quand j'étais aigu, ça fait encore 30 ans, il va falloir que j'attende encore combien de temps ? 20 ans, quoi. Vous vous rendez compte ? Et alors, ce mec-là, il avait fait HEC, il avait fait HEC, enfin, il y avait une similitude, vous comprenez? Hop! Il passe devant, et puis il roulait des mécas, et puis il était vachement bien vu par les autorités. Et puis, ah, je sais, c'était mon bisu. C'est mon bisu. Et lui, il passe devant, on leur donne. Et puis moi, il n'était même pas question même qu'on me fasse acolyte. Hein. Donc j'en avais au moins pour 3 ans. Hein. Je dis, mais non, c'est bizarre. Alors j'étais à genoux, je faisais oraison communautaire, comme on a fait là. Tous les jours, on faisait oraison. Et puis, je ne le voyais pas, le type. Hein. Je ne vous dirai pas c'est qui, parce que vous pourriez un jour le rencontrer. Enfin, il était là. Je ne l'avais pas vu arriver. Hein. Je savais qu'il était là. Non, que j'accepte d'être celui qui passe devant à ton regard, à toi. Et la mamelle qui est au fond de moi, qui est la mamelle de la miséricorde, je suis le premier à la saisir. Et alors à ce moment-là, ok Seigneur, maintenant j'accepte tout, maintenant tout ça, voyez bien. Mais il y a toute une démarche spirituelle qui se fait. Bon, ça fait ridicule hein, quand on l'explique sur une... Parce que toute émotion est ridicule. Mais bon, ça fait rien. Il faut simplement apprendre à gérer ses émotions pour se convertir et faire qu'on soit tout proche du bon Dieu et qu'on soit tout proche de lui et qu'on rentre dans l'union transformante et qu'à ce moment-là, notre corps soit pris, notre cœur soit pris, notre âme soit prise, qu'on soit libre. Et c'est ce qu'on va voir donc demain. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Lendemain, ce sera beaucoup plus facile. On va voir pour chacune de ces fameuses émotions, quelle est la grâce. Ce n'est pas la même grâce qui est là cachée derrière l'agressivité ou derrière la tristesse. Donc on va essayer simplement de trouver des points de repère pour saisir le type de grâce hein, qui est caché derrière un type d'émotion.